Michel Poitevin est au bout du fil. Michel, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. C'est bien ça, Michel?
C'est encore ça, oui.
Est-ce que la neige vous fait plaisir, vous qui êtes skieur?
Bien, moi, je suis à la Malbaie en ce moment, puis c'est un gros ciel bleu.
Ah oui, il n'y a pas de neige.
Il n'y a pas de neige et la montagne est fermée pour la saison.
Bon, alors il va falloir vous rapprocher, là, parce qu'il y en annonçait pas mal dans les Laurentides, notamment.
Ah oui, bon, tant mieux.
Chacun son tour. Alors, Michel, les tarifs douaniers, ce matin, on en parle encore. Où en sommes-nous?
Oui, ça bouge. Il y a une semaine, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça. En fin de semaine...
C'est pas juste une impression, je pense.
C'est ça. En fin de semaine, les États-Unis avaient imposé un tarif qui est rentré en vigueur, on avait parlé avant, de 10 % sur toutes les importations aux États-Unis de partout. Certains biens étaient exemptés, là, des biens reliés à l'énergie, le pétrole, le gaz, cuivre, l'argent, platine, bois de construction, semi-conducteurs, produits pharmaceutiques, puis les terres rares là, qui sont difficiles à trouver sur le sol américain. Par contre, l'acier, l'aluminium et les voitures importées, eux, ont un tarif de 25 %. Pour le Canada, les voitures qui sont produites au Canada et au Mexique, le tarif s'applique de 25 %, mais seulement sur le contenu non américain, ce qui va être un beau casse-tête à essayer de résoudre parce que une auto, c'est constitué de beaucoup de pièces. Certaines sont produites aux États-Unis, au Mexique, au Canada, mais d'autres, ça vient du Japon, de la Chine, de la Corée, de l'Union européenne. Alors, de calculer c'est quoi le contenu nord-américain d'une auto, ça va...
Un casse-tête.
Un vrai casse-tête. On verra comment ils vont se débrouiller avec ça. Et puis finalement, demain, les fameux tarifs réciproques là, dont on parle depuis plusieurs jours seront mis en place pour tous les pays avec lesquels les Américains ont un déficit commercial.
Alors, tout d'abord, c'est quoi un déficit commercial, Michel?
Oui, un déficit commercial, Trump n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on entend par déficit commercial? C'est lorsque on regarde deux pays, les États-Unis puis un autre pays, par exemple le Japon, et puis supposons que les États-Unis achètent plus de biens japonais que les Japonais achètent de biens américains. Donc, c'est vraiment lorsqu'on a plus d'importations du pays qu'on en exporte dans ce même pays. Donc, Trump n'aime pas ça. Ils disent, lui, il appelle ça de l'exploitation. C'est pas du tout de l'exploitation. Je vais essayer de vous expliquer un peu c'est quoi. Puis je vais prendre un exemple très simple. En supposant qu'on a juste dans mon petit exemple seulement deux pays, le Japon et les États-Unis. Et puis un Américain décide d'acheter une auto japonaise. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc l'Américain, lui, a des dollars américains évidemment. L'auto japonaise est vendue en yens, donc la monnaie japonaise. Donc l'Américain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre des dollars américains à un Japonais pour acheter des yens, pour être capable de payer pour son auto.
Okay.
Donc, c'est une opération de change. Puis là, jusque-là, ça va. Là, ce qu'il faut se demander, qu'est-ce qui arrive avec les dollars américains qui sont maintenant dans les mains d'un Japonais? Mais comme on a supposé qu'il y a un déficit commercial entre les deux États-Unis, le Japonais ne peut pas acheter des biens d'une valeur égale aux États-Unis, sinon il n'y aurait pas de déficit, il n'y aurait pas de problème. Puis là, on regarde un exemple où il y a un déficit.
Ouais.
Alors, tout ce que peut faire notre Japonais s'il n'achète pas des biens américains, c'est d'investir aux États-Unis. Donc, il va prendre ses dollars américains puis il va les investir aux États-Unis, par exemple, en achetant des bons du Trésor américain. Donc, ce sont des obligations à court terme du gouvernement américain. Alors, il prend ses dollars américains, il achète des bons. Qu'est-ce qui arrive sur le marché des bons du Trésor? Là, bon, c'est toute une chaîne, là, mais suivez-moi bien. Donc, si on achète plus de bons, ça veut dire que le prix des bons du Trésor va augmenter, il y a plus de demandes.
Ouais.
Puis lorsque le prix augmente, bien, ça fait baisser le taux d'intérêt effectif.
Ah, c'est pour ça que Trump n'aime pas ça.
Non, en fait, c'est là où il se trompe, justement, parce qu'il dit qu'on a un déficit, c'est pas bon. Mais ce que ça permet de faire, ce déficit commercial-là, comme les étrangers ont beaucoup d'argent américain parce qu'ils ont vendu beaucoup aux États-Unis, ils investissent cet argent-là aux États-Unis, puis ça fait baisser les taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui est bon parce que le gouvernement peut financer sa dette le gouvernement américain peut financer sa dette à moindre taux. Je ne sais pas si c'est clair, là.
Oui, c'est clair, mais pas comme de l'eau de roche, là. Mais,
oui, allez-y.
Alors, il utilise des tarifs réciproques. Là, on en parle de tarifs réciproques, là, mais c'est quoi ça, des tarifs réciproques?
On pourrait penser, quand on regarde ça, bien, mais supposons, je reviens à mon exemple, supposons que le Japon met des tarifs de 20% sur les biens américains. Le gouvernement américain pourrait riposter puis mettre un tarif de 20% sur les biens japonais. Et ça, ça serait trop simple. Ce que Trump veut, il veut éliminer le tarif commercial entre les deux pays. Donc, il charge un tarif qui, selon lui, éliminerait le déficit commercial. Comment il a fait ça? Bien, ils ont regardé des papiers de chercheurs en économie, des chercheurs universitaires. Puis il y en a qui ont regardé un peu quel serait le tarif qui élimine le tarif commercial. Ils ont produit une formule. Sauf que Trump a mal interprété la formule. Ils l'ont mal utilisée. Puis il y avait même un article ce matin par un de ces chercheurs dont on avait utilisé la formule. Et puis selon lui, les tarifs proposés sont beaucoup trop élevés par rapport à ce que sa formule donnerait.
Oui, une formule ridicule. Hein? J'ai entendu le mot ridicule.
Il y a un fondement académique, mais vraiment pris hors contexte, puis mal utilisé. Puis il y a des mauvaises langues qui ont dit qu'on s'est juste basé sur ChatGPT puis l'intelligence artificielle pour sortir ça. Mais qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? Bien, la Chine qui avait un tarif avant de 20%, là, parce que toute la planète a eu 10% là, dans la première ronde, mais la Chine, elle avait 20. Puis on rajouterait un autre 34 pour amener ça à 54%. Le Vietnam, 46% plus le 10 dont on a parlé, ça ferait 56%.
Le Cambodge, la même chose, hein? Je pense.
Pardon?
Le Cambodge, la même chose que le Vietnam.
Oui, c'est ça. Je ne rentre pas dans tous les pays. Non, non. Il y a beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, le Bangladesh, des produits où on fait beaucoup de vêtements, par exemple, qui sont taxés très fort. L'Union européenne, 20%. Le Royaume-Uni, 10%. Le Japon 24, la Corée 25, la Thaïlande en Asie du Sud-Est 36%. Puis ce qui est drôle, même des territoires australiens, des îles Heard et McDonald dans la région subantarctique, qui est habitée seulement par des pingouins, qui avaient le même tarif que l'Australie de 10%.
C'est là qu'on se dit, il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens là ici.
C'est ça, ben c'est un peu la risée.
Ouais, oui.
Ils ont vraiment fait rire d'eux. Puis on a finalement retiré ces îles-là de la.
Ben là, ils n'avaient pas le choix.
Quand même, ça monte un peu.
Le mal est fait de toute façon. Là, c'est partout exact. Sur les réseaux sociaux des caricaturistes qui s'en sont donnés à cœur joie, et
les etc. Les pauvres pingouins qui viraient avec leurs pancartes puis protestent contre les tarifs de
oui. Alors, quelle est la riposte, Michel?
On est un peu limité. Je vais surtout parler de la Chine, là, parce que là, j'ai l'impression que ça va brasser un peu. La Chine, c'est un immense marché qui a un poids économique qui est vraiment non négligeable. Donc, en riposte au surtarif ou la surtaxe de 34%, la Chine a décidé d'imposer à son tour 34% sur les importations américaines. Trump n'était pas content. Et puis là, il a dit que si la Chine faisait ça, lui, il rajoutait un autre 50%.
Surenchère.
C'est ça. Et ce qui amènerait le tarif de la Chine à 104%, donc ça ferait doubler le prix des produits chinois aux États-Unis. Par contre, la Chine, tu sais, les Chinois, on les aime pas pour tout ce qu'ils font, mais c'est un pays qui est très fier. C'est pas le genre de pays à céder à un tel chantage.
À se laisser manger la laine sur le dos.
Exactement. Puis c'est quand même un gros joueur économique. Ils ont dit qu'ils ne céderaient pas au chantage. Donc ça va être intéressant de voir là, demain. Le 34% américain entre en jeu. La Chine a dit que ça entrait jeudi, ils mettaient leur propre 30%. Puis là, Trump a dit qu'ils mettraient 50% ensuite jeudi ou vendredi. Alors, les prochains jours vont nous donner qu'est-ce qui va arriver avec cette bataille-là. Mais là, il y a une riposte aussi, peut-être je voulais parler, il y a une riposte aussi à l'intérieur des États-Unis. Il y a plusieurs politiciens républicains qui commencent à critiquer plus publiquement la politique de Trump. Puis ça, c'est un peu... Parler publiquement contre Trump, en général, c'est pas très bien vu dans le Parti républicain, mais là, la grogne se fait sentir.
Il y a des fuites. Musk,
c'est ça. Il y a même Musk ce matin qui a ridiculisé la politique tarifaire des États-Unis. Lui, Musk a bien des défauts, mais c'est quand même un partisan du libre-échange, et puis il dit que ça devrait être des tarifs de zéro.
Oh.
Et puis il a ridiculisé la politique de tarifs américains.
Son ami n'aimera pas ça.
Ben, c'est ça, là, ça va brasser dans
dans cabane.
Les placards, dans la cabane,
dans la cabane blanche.
La cabane blanche, la cabane blanche, c'est ça. Mais les policiers républicains ont peur des élections de mi-mandat qui arrivent en novembre 2026. S'il fallait que les tarifs apportent de l'inflation aux États-Unis puis mènent à une récession, on n'est pas à veille de s'en sortir aux États-Unis, puis sûrement que ça va avoir des répercussions. Puis là, on se rappellera que les républicains contrôlent et le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat. Ça pourrait changer de bord en novembre 26, ce qui enlèverait beaucoup de pouvoir au Parti républicain et au président Trump. Donc, politiquement, la grogne à l'intérieur des États-Unis se fait sentir. On va voir ce qui va se passer avec ça. Est-ce qu'il y a une lumière d'espoir au bout du tunnel ou c'est un train qui nous arrive les prochaines semaines qui vont nous le dire?
Oui, parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler et d'en parler avec vous, notamment.
J'ai l'impression que j'en parle à chaque semaine. Je suis
tanné
d'en parler, mais c'est incontournable.
Oui, tout à fait.